7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
La voie est libre, Olivier, pour les colons en Israël.
Une épaisse ligne rouge vient d'être franchie selon le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix. Ligne franchie par le Parlement israélien cette nuit. La Knesset vient d'approuver une loi inédite. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Olivier.
Loi autorisant l'État à s'approprier des centaines d'hectares en Cisjordanie. Autrement dit, la colonisation devient parfaitement légale.
L'image utilisée par les ONG sur place, c'est celle du blanchiment des milliers de maisons construites illégalement il y a plusieurs dizaines d'années sur des terres privées palestiniennes qui réintègrent avec cette loi la rive du droit israélien à l'abri des arrêtés de la Cour suprême en échange de compensation. C'est une victoire importante des partisans de la colonisation, un retour à la loi, estime Aaron Katzov, installé dans la colonie sauvage de Esh Kodesh en Cisjordanie occupée.
C'est du jamais vu. Parce qu'une terre est peut-être enregistrée sous le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vient et on détruit des maisons. On jette des familles à la rue. Ça n'arrive nulle part ailleurs dans le monde. Et il était temps qu'une loi passe enfin pour protéger les droits des personnes qui vivent sur leur terre.
Voilà, cette loi arrive quelques semaines après le départ de Barack Obama qui a joué, on s'en rend compte maintenant, pendant des années, un rôle important de digue. Le premier ministre israélien n'a pas résisté à la pression des partisans de la colonisation. C'est un moment de vérité, estime Dror Etkes, qui a travaillé pour plusieurs ONG sur le sujet de la colonisation.
Make a choice where you are. Il faut se situer maintenant. Il faut arrêter de prétendre que ce vol de terre s'est fait par erreur ou par accident. C'était une politique systématique, programmée et clandestine. Et maintenant, il faut en payer le prix. Soit c'est un prix intérieur, tu démantèles les maisons et tu expliques aux colons comment tu les as autorisés à s'installer, et tu payes, tu régularises, et tu vas expliquer ce que tu es en train de faire devant la Cour de justice pénale internationale de l'AE.
Et ce texte pourrait tout de même rester déclaratif. L'avocat du gouvernement considère qu'il heurte les standards du droit israélien et international. Il pourrait être censuré par la Cour suprême qui se trouverait alors en situation d'être le dernier recours pour la gauche ou le dernier obstacle pour la coalition.
Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem.
Et notre long format consacré ce soir, Olivier, au Niger sous la menace de Boko Haram.
Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et depuis quelque temps le sud du Niger. Nicolas est sérieusement touché par les attaques de la secte islamiste, tirs d'obus, sabotage, attentats, suicides, des agressions quotidiennes. Bonsoir Thibaut Lefebvre.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes parti Thibaut en reportage dans la région de Diffa, c'est donc au sud du pays, région totalement déstabilisé depuis 2 ans par ces violences.
600 000 habitants et plus de la moitié de ces habitants sont des réfugiés ou des déplacés. 300 000 Nigérians ou Nigériens obligés de fuir leur village après avoir subi des attaques d'une violence inouïe. C'est le cas de Mustapha, costume marron, lunettes noires, des yeux rougis. Cet enseignant d'un peu moins de 50 ans a subi un des assauts les plus meurtriers des 12 derniers mois. Fin mai, une quarantaine de combattants de Boko Haram entrent dans son village de Yébi. C'est à quelques kilomètres du lac Tchad.
Ils attaquent pendant la nuit. C'était vers 11h lorsqu'ils sentent que le village est endormi. Dès qu'ils rentrent, ils vont sonner. C'est-à-dire qu'ils vont alerter la population en disant qu'ils sont là. Donc, ils tirent et accompagnés de leur Allahu Akbar. Dès qu'on sent cela, on sait que c'est le Boko Haram qui sont présents. Et chacun de son côté se précipite pour courir. Tu laisses ta famille, tu cours. Tu laisses ton enfant, tu cours. Ils ont incendié le village et tout le village est en feu devant moi. J'ai vu pas mal de gens qui sont brûlés vifs. J'ai vu des enfants aussi qui sont jetés dans des centres. Donc ils sont aussi brûlés. Ça, j'ai vécu à Yébi.
Une trentaine de civils morts à Yébi, 15 fois plus de décès, de disparitions ou d'enlèvements depuis 2 ans dans la région. La pression de Boko Haram est constante avec en moyenne une dizaine d'attaques par mois et des réfugiés toujours sur les routes.
Thibaut, on part maintenant donc vers l'ouest, direction que prennent justement ces dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés, disséminés sur une centaine de sites sauvages en bordure de l'unique route goudronnée de la région.
C'est, c'est une des particularités. À Diffa, plus de 90% des populations qui fuient Boko Haram ont installé leurs abris de fortune sur ces sites improvisés. Très loin donc des 2 camps officiels mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La raison est économique, mais surtout sécuritaire. C'est l'avis de Benoît Moreno, il est chargé des relations extérieures pour le HCR.
C'est un endroit qui peut permettre une intervention rapide des forces de sécurité s'il y a une attaque. C'est un endroit qui est plus accessible pour les humanitaires. Et à côté de ça, il y a l'espoir aussi de pouvoir rentrer rapidement, donc de pas trop s'éloigner de la maison, mais aussi des zones fertiles. Donc l'attrait pour le camp est faible. Les camps ne sont pas une solution viable. Vous montez un camp, vous savez jamais quand est-ce que le camp va le démonter. Donc on s'efforce avec le gouvernement du Niger de trouver des solutions pour permettre aux gens de s'installer en dehors du camp. On est dans une situation où c'est maintenant qu'il faut investir. Parce que les gens ne vont pas forcément en revenir. Les personnes ont choisi de s'installer le long de la route pour leur sécurité. Il faut accompagner ça.
Alors le Niger, Thibault, cherche à stabiliser la situation sur le plan humanitaire, on l'a compris, mais aussi et surtout sur le plan politique.
Depuis 2 ans, 750 soldats nigériens assurent la sécurité des populations dans la région. Le problème, c'est qu'un peu moins de la moitié ont été récemment redéployés à la frontière du Mali, donc plus au nord, où les milices islamistes sont de plus en plus menaçantes. Les forces manquent désormais à Difa et il faut donc trouver rapidement une solution de sortie de crise. Cette solution pour le gouvernement du Niger, eh bien c'est un programme d'amnistie destiné aux combattants de Boko Haram. Le marché est très clair, la reddition contre la liberté. Hassan Ardo Ido est le secrétaire général de la République à Difa.
Nous leur garantissons la sécurité. Donc s'ils se rendent, il n'y a plus de raison de les combattre. Il y a des activités qui sont prévues de déradicalisation, de rééducation, de formation professionnelle et de réinsertion dans la vie socio-économique. Ce sont tous des jeunes égarés qui ont été trompés. D'abord, qui n'ont même pas beaucoup de notions sur le plan religieux. On pense que nous, on peut les récupérer. Dans la mesure où ils viennent se rendre, si vous avez 400, 500, 1000, 2000, 3000 combattants qui reviennent, qu'est-ce qu'il faut en faire? On n'a pas ouvert une prison pour mettre 3000 personnes.
Une cinquantaine de combattants de Boko Haram ont pour le moment accepté de se rendre. Selon les estimations des forces internationales, ils seraient entre 5 et 7 000 répartis autour du lac Tchad.
Reportage au sud du Niger, signé Thibault Lefebvre. Merci à vous, Thibault.
Attention, événement, ouverture ce soir, Olivier, en Italie, du Festival de San Remo, le 67e du nom.
C'est le grand concours de la chanson italienne, Nicolas. Le carton d'Audimat est assuré et peut-être encore plus cette année. Les organisateurs ont décidé de rendre hommage à un certain Luigi Tenco, très connu là-bas, un peu moins ici, en Italie. Le souvenir de son suicide, il y a 50 ans, après une prestation ratée, reste très ancré dans les mémoires. Bonsoir, Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Correspondante de France Inter en Italie, qui était Luigi Tenco, Mathilde?
Alors Olivier, précisons-le d'emblée, Luigi Tenco était l'amant de Dalida. Le couple magnifique débarque en San Remo en 1967. Lui a 28 ans, il démarre, elle est déjà une star. San Remo est alors un must, une vitrine sans égale pour les chanteurs. Ils interprètent sur scène Ciao, Amore, Ciao. Mais c'est un flop, le duo est éliminé du concours et c'est une claque pour Luigi Tenco, raconte le critique musicale John Vignola, le monsieur musique de la RAI.
Nous sommes en janvier 1967. Luigi Tenco n'a pas encore atteint le grand succès. Il n'a pas la formation classique des chanteurs, compositeurs et il a d'autres horizons. Il débat longuement avec sa maison de disques sur l'opportunité de se présenter à San Remo. Finalement, il accepte d'y aller pour élargir son public. À l'époque, il entretient cette liaison avec Dalida amplement commentée et il décide de présenter au concours une chanson à laquelle il a durement travaillé. Ciao, amore, ciao. Elle est réécrite plusieurs fois. Et ce soir-là, Tenco l'interprète mal. Peut-être parce qu'il n'est pas très sobre quand il monte sur scène. Quoi qu'il en soit, moi je n'étais pas dans cette chambre et personne ne l'était. Tenco s'enlève la vie dans des circonstances troubles. On ne saura jamais la vérité. Mais peut-être qu'il ne se serait pas suicidé s'il n'avait pas été dans un état second cette nuit-là.
Un mois après le suicide de son amant, Dalida voudra elle aussi mettre fin à ses jours, sa première tentative.
Et 50 ans plus tard, le suicide de Luigi Tenco fait encore débat en Italie, Mathilde.
Oui, parce qu'un certain nombre d'éléments troublants entourent cette mort. La balle n'a pas été retrouvée, elle a été tirée côté gauche alors que Tenco était droitier. Une expertise récente en 2006 a conclu une nouvelle fois au suicide. Mais l'un des biographes de Luigi Tenco, le journaliste Aldo Colonna, soutient la thèse de l'homicide. Tenco aurait été tué selon lui parce qu'il en savait trop sur les coulisses de San Remo.
Luigi Tenco est persuadé cette année-là de remporter le concours de San Remo. Il dit à tout le monde, ce morceau est un acceptable et en plus, chanté par Dalida, ça ne fait pas un pli. Mais il se heurte à Dalida qui lui explique qu'ils ne peuvent pas gagner car tout est truqué, joué d'avance. Alors le monde de Luigi Tenco s'écroule, puis il comprend qui tire les ficelles et menace de tout révéler lors d'une conférence de presse. Alors soyons clairs, Dalida ne savait pas qu'il allait être tué, mais elle était au courant des manipulations de Sanremo.
Quand Tenco se suicide en 1967, l'Italie est secouée, mais Sanremo se poursuit. 50 ans après sa mort, ce soir, en ouverture de la 67e édition, le festival rendra hommage à Luigi Tenco. Tiziano Ferro, un des chanteurs en vogue en Italie, reprendra l'une de ses plus belles chansons, Mi sono innamorato di te.
Perché non avevo niente da fare.
Sanremo, c'est parti pour 5 soirées de musique italienne. Coup d'envoi dans 2 petites heures sur la RAI.
Merci à vous Mathilde Imberti pour ce magnifique reportage.
Et on file Olivier aux États-Unis. Quelques mots sur la brouille entre Donald Trump et la presse, Olivier.
Can you give us a question?
You are fake news.
Vraie ou fausse information, c'est désormais le président américain qui fixe les règles, Nicolas. Il accusait hier les médias européens de ne pas couvrir volontairement certaines attaques terroristes. La Maison-Blanche publie dans ce sens aujourd'hui une liste de 78 attentats sur le territoire européen, exécutés ou inspirés selon elle par Daesh. Liste reprise cet après-midi par le site des décodeurs du Monde qui souligne l'amalgame entre attentats et incidents mineurs faits par Donald Trump et démontre que tous ont bien été couvert par la presse, mais c'est fait, Donald Trump continue de semer le doute.
J'imagine pour justifier le décret Olivier anti-immigration.
Oui, mais les jugements violents et souvent définitifs de Donald Trump engendrent aussi des ripostes tout aussi agressives aux États-Unis. Exemple, le piratage ce week-end de plusieurs radios locales américaines par les rappeurs YG et Nipsey Hussle pour délivrer ce message assez explicite à l'écart du nouveau président.
Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Hey, Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you. Donald Trump.
Voilà Nicolas, la pratique est assez violente, le piratage de dizaines de radios locales américaines, le message assez grossier et absolument pas destiné à apaiser les tensions entre les pros et les anti-Trump.
Olivier Poujade, merci.